son thème, c'est « Acteur de sa destinée ». Acteur de sa destinée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es acteur de ta destinée? Tu es acteur de ta destinée, actrice de ta destinée. Voilà. On a l'habitude de dire que notre destinée est entre les mains de Dieu, ce qui est vrai, mais tu es acteur de cette destinée. Parce que Dieu a déjà préparé les œuvres d'avance afin que tu les pratiques pour être acteur de ta destinée, pour faire accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Ce que le Seigneur a préparé d'avance, ce que le Seigneur a déjà établi pour que tu entres dans les voies que Dieu a préparées, a prévues pour toi. Pour cela, il faut que tu sois un acteur de ta destinée. Et nous voyons que même lorsque nous cherchons du travail, ou lorsque nous sommes malades et que nous devons prendre un téléphone pour appeler un médecin ou aller à l'hôpital, on est acteur. On n'attend pas que les choses viennent à nous. On se déplace, on se met en mouvement, on fait ce qu'il faut faire. Donc on va lire 2 Rois chapitre 6, du verset 24 au verset 33. 2 Rois chapitre 6, du verset 24 au verset 33. On va lire une petite histoire. C'était à l'époque du peuple d'Israël. C'est la ville de Samarie. La Bible déclare, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie, qui est l'une des capitales d'Israël à l'époque. Il y eut une grande famine dans Samarie. Pourquoi? Parce que la Syrie assiégeait Samarie. Ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc ils assiégeaient Samarie, ils étaient comme prisonniers des Syriens. Et à cause de cela, il y eut une grande famine. Donc il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent. Je regardais un peu qu'est-ce que peut représenter un sicle d'argent aujourd'hui. Un sicle d'argent aujourd'hui, c'est à peu près 2,4 euros. Et puis voilà, si on multiplie par 80, on est à peu près à 192 euros pour une tête d'âne. 192 euros aujourd'hui. Et il dit après, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent, donc à peu près 12 euros de nos jours. Alors qu'avant qu'il y ait le siège, on ne mangeait pas de fiente, parce que, si vous savez, les fientes, c'est quoi? Voilà, c'est du caca. Mais ils sont arrivés à un point où ils mangent du caca, qu'ils vendent à 12 euros. 12 euros. Et vous allez comprendre la suite du texte, jusqu'où ils sont allés avec la famine qu'ils vivaient. On continue. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir. » Donc en fait, ici, il explique qu'ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire, il n'y a pas le produit du pressoir, il n'y a pas le produit de l'air, il n'y a rien dans la ville. Donc, même si Dieu lui-même ne peut pas te sauver, moi, en tant qu'homme, on est dans la famine, on n'a plus rien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ?» Il s'intéresse quand même à son cas, même si il sait qu'il n'a rien à lui offrir, mais le roi s'intéresse quand même à son cas. Il demande à la femme, donc, et le roi lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Cette femme-là, donc une autre femme, cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, écoutons bien, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. » Continuons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé ensemble, cette femme-là et moi. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous allons le manger. Mais elle a caché son fils. Vous voyez à quel point les fientes finalement, le pigeon n'y était rien. Ils sont allés au point où ils mangeaient les enfants. Parce qu'ils avaient la famine. Ils avaient tellement faim, ils n'avaient plus rien à manger. Ils étaient assiégés par la Syrie, au point où, pour survivre, un, ils mangeaient des fientes de pigeons. Deux, ils sont allés jusqu'à manger leurs enfants. Et il y a eu un problème, une petite querelle. On acceptait de manger l'enfant d'une famille. Et quand c'était le tour de l'autre famille, ben, ils ont caché leur enfant. Et c'est devenu un problème qu'on a rapporté au roi. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Continuons. Le roi dit, « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Rappelons, on a beaucoup prêché ces temps-ci sur lui. Élisée est le prophète à ce temps-là. Donc le roi dit, ben, moi je couperai la tête d'Élisée parce que nous sommes le peuple de Dieu, on est au point où on finit par manger les enfants les uns les autres. On est tellement dans la famine, ça ne va pas du tout. On a tellement de problèmes qu'on finit par manger nos enfants. Que fait Élisée le prophète? Que fait Dieu? Or Élisée était assis dans sa maison, tranquille. Et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que le fils, c'est ça, ouais, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte. Et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ? Continuons. Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Donc ça rejoint ce que le roi disait. Nos malheurs nous viennent de Dieu. Que peut-on encore espérer de lui? Puisque c'est lui qui a fait le ciel et la terre, c'est lui qui est maître des choses, les Assyriens nous oppressent, les Assyriens nous ont rendus prisonniers de notre propre ville, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rentrer, on ne peut plus faire rentrer la nourriture pour que nous puissions vivre. La famine nous a tellement frappés. Tous nos malheurs nous viennent. Que ferons-nous encore? Continuons. C'est tout? Ah. Alors, si tu peux continuer sur les versets qui suivent, s'il te plaît, ma chérie. C'est ma fille qui est là-dedans. Hein? Voilà. Alors, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures. Donc, Élisée, qu'on allait voir pour lui couper la tête, finit par prophétiser. Il donne une parole. Il dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un sicle et deux mesures d'or pour un sicle à la porte de Samarie. En fait, il leur annonce que la famine va s'achever. On va revenir à des prix normaux. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arrivera-t-elle ? » Même si Dieu fait des fenêtres au ciel, ça encore je peux croire. Mais on est dans la famine aujourd'hui, on souffre, les gens mangent même leurs enfants, et toi tu nous dis que demain, pas dans 2 ans ou je ne sais pas, dans 1 an, non, demain, tout va aller bien. On va retrouver une vie d'avant. Et même peut-être mieux qu'avant. Mais c'est impossible. Dieu n'a qu'à faire même les fenêtres au ciel, ça je veux croire. Mais dire que demain tout va aller mieux, ce n'est pas possible. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas, tu n'en mangeras point. Continuons l'histoire. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Les lépreux, à l'époque, étaient mis à part. Ils étaient impurs. Ils ne vivaient pas avec les autres. Donc, quand tu étais lépreux, on te bannissait du groupe. On te bannissait de la ville. On te mettait hors de la ville. Et donc, ils disent ici, il y avait à l'entrée de la porte, juste à l'intérieur, à l'entrée, 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Pourquoi ? Parce qu'il a faim. Continuons. Si nous songions à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, de nos ennemis, ceux qui nous assiègent depuis des mois et des mois. En fait, si on rentre dans la ville, on va mourir, il n'y a rien. Si on reste ici, on va mourir, il n'y a rien. On décide de partir chez nos ennemis. Et il dit quoi ? Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Continuons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Ça fait des mois que la ville de Samarie est assiégée. Ils souffrent parce que l'ennemi est à leur porte. Ils ne peuvent rien faire. La Syrie était à l'époque beaucoup plus forte qu'Israël, que la Samarie. Et donc, ils ne sortaient plus. Et leurs ennemis étaient là. Et ils les voyaient. Et quand ces 4 lépreux décident que on ne peut pas rentrer dans la ville parce qu'on risque de mourir. On ne peut pas rester ici parce qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a une possibilité. Nos ennemis, ils sont en face. Mais en y allant, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit ils vont nous tuer, soit ils vont nous laisser vivre. Mais comme c'est 50-50, on va prendre la décision de quand même aller vers nos ennemis. Si nous tuent, ça ne change rien, parce que de toute façon, on serait mort. Mais s'ils ne nous tuent pas, au moins, on vivra. Et une fois arrivés là-bas, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de Syriens. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La suite nous le dira. Vu le cas, le Seigneur avait fait entendre dans le corps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Donc, pendant que eux, les 4 qui marchaient, 4 lépreux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'armes, ils ne sont pas une armée, ils sont 4 lépreux. Donc, 4 faibles personnes que tu peux même toucher comme ça et tomber meurt. Parce que tellement ils avaient tous faim qu'ils n'avaient plus de force. Mais ils ont décidé de marcher quand même. Donc, en fait, eux, ils n'étaient pas une menace pour le camp des Syriens. Mais la Bible déclare, lorsque eux, ils marchaient vers le camp des Syriens, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. 4 lépreux. Une grande armée. Dieu fait entendre dans le camp des Syriens qu'il y a une grande armée qui arrive pour les combattre et les faire chasser du siège de Samarie. Alors qu'il n'y a que 4 lépreux qui marchent. Et la Bible déclare, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent. de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Vous vous rendez compte? Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils sont allés cacher. Des gens qui, il y a encore quelques heures, souffraient de famine, risquaient de mourir. Mais ils ont pris une petite décision simple. Ils se sont dit, on reste ici, on meurt. On rentre dans le camp des Syriens, plutôt dans notre camp à Samarie, dans notre ville, on meurt. De l'autre côté, ce sont nos ennemis, nos adversaires. Qu'est-ce qu'on fait? Deux possibilités. Soit on y va, on meurt, soit on y va, ils nous laissent vivre. Eux, leur idée, c'était, ils nous laissent vivre. Mais ils arrivent là-bas, ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus l'armée de la Syrie. Mieux pour eux, ils trouvent à manger. Ils trouvent à boire. C'est même pas qu'ils ont trouvé des choses qu'il fallait qu'ils préparent. Non! Il y avait déjà à manger. Il y avait déjà à boire. Ils ont mangé. Ils ont bu. Tellement mangé et tellement bu qu'ils n'en pouvaient plus. Après, ils ont pris l'argent. Donc, ils ont même trouvé de l'argent. Quatre lépreux, pauvres, qui n'avaient rien, qu'on a chassé, qu'on a mis au bord de la ville. Ils se sont retrouvés avec de l'or, de l'argent et les ventres pleins. Continuons. Ils revinrent, pénétrèrent. Oui, merci. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente. Et ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Donc, on va dire qu'ils deviennent déjà riches. Ils font l'épargne. Ils prennent tout cela, ils mettent déjà à côté. Puis, ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. On a quand même nos frères qui souffrent à côté, dans notre ville de Samarie. Donc, puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. C'est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils allèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Donc le roi s'est dit, c'est un piège. C'est trop facile. Comment les Syriens qui sont là depuis des mois, qui assiègent la ville, tout à coup ils ont disparu? Et ces quatre lépreux viennent nous informer que tout va bien, il y a nourriture en abondance, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de Syriens. Le roi dit non, 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 il y a un piège, ce n'est pas possible. Alors, l'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont encore toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. Il y a un qui dit, bon, on ne sait jamais. Envoyons quand même quelques chevaux, comme des messagers, pour voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur la trace de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un sicle et deux mesures d'orgue pour un sicle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous savez, quand je préparais ce moment et que j'ai eu ce passage, j'ai intitulé donc mon intervention « Acteur de sa destinée ». Acteur de sa destinée. Vous voyez qu'il y a toute une ville qui est assiégée. Toute une ville qui est dans des problèmes et des difficultés. Toute une ville qui va jusqu'à manger ses enfants. Parce qu'il n'a aucune autre solution. Mais Dieu a quelque chose qu'il a prévu. L'homme de Dieu, la dernière fois Thierry ici a parlé d'écouter la voix de Dieu. L'homme de Dieu a prononcé une parole prophétique. Parmi les gens qui étaient là, il y a un qui a dit, même si Dieu fait les fenêtres au ciel, ce que tu as dit, homme de Dieu, ne peut pas arriver. Cet homme-là, c'est celui qui est mort à la fin. Parce que l'homme de Dieu lui avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Puisque tu n'as pas cru à ce que Dieu va faire. Ce qui veut dire que Dieu avait déjà prévu que demain, il y aura une possibilité que vous sortiez de la famine. Demain, il y aura une possibilité que le problème que tu traverses trouve une solution. Mais parmi tous ceux qui ont écouté, personne n'a cru. Personne ne s'est levé. Personne n'a fait quoi que ce soit. Quatre lépreux. Mis au bord de la ville. Je dirais même qu'ils n'ont peut-être pas entendu la prophétie. Mais ils ont regardé leur situation. Ils se sont dit, est-ce qu'il faut rester dans cette situation? Est-ce qu'il faut subir la situation. Ils ne savaient pas ce que Dieu avait prévu. Mais ils se sont dit, on ne peut pas rester ici. On ne peut pas vivre et subir la situation dans laquelle nous sommes. On risquerait de mourir. Mourir en rentrant dans la ville, mourir en restant ici. Mais on risquerait de mourir. Mais Dieu avait déjà préparé quelque chose. Dieu attendait que quelqu'un ait la foi, que quelqu'un se mette en mouvement, que quelqu'un fasse un pas, que quelqu'un se mette dans l'action. On a l'habitude de dire, il faut arracher sa bénédiction. Il faut saisir sa bénédiction. Lorsque Dieu arrive avec le peuple d'Israël devant la ville de Jéricho, lorsque Dieu, par Moïse, envoie des messagers, lorsqu'il voit les enfants d'Anak, lorsqu'il voit des géants, Dieu leur avait déjà dit, je vous livre la ville. Mais tellement ils ont vu leurs ennemis, ils ont dit non. Même si Dieu faisait les fenêtres au ciel, ces géants-là, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Nous ne pouvons pas les vaincre. Dieu leur a donné déjà la bénédiction. Dieu leur a déjà donné la parole. Mais ils n'ont pas accueilli la parole. Ils n'ont pas cru en la parole. Ils ont regardé aux circonstances. Ils ont regardé à la situation. Et ils se sont dit, cela n'est pas possible. Ma situation est tellement compliquée, comment je vais m'en sortir? Mais il y a déjà une solution que Dieu a prévue. Sauf que si tu n'es pas acteur, si tu ne fais pas le pas, si tu ne rentres pas dans ce que Dieu attend, j'ai l'habitude de dire aux gens, on attend Dieu, mais en fait, Dieu nous attend. On attend. Seigneur, fais quelque chose. Et lui te dit, fais quelque chose. Tu es dans une position où Dieu attend que tu bouges, que tu fasses. Et chacun dans son cas, c'est différent. Ça peut être qu'il attend que tu mettes en place tes temps de prière. Ça peut être qu'il attend que tu sois un peu plus concentré dans sa parole. Ça peut être qu'il attend que tu envoies des CV pour ceux qui cherchent du travail. Ça peut être qu'il attend, qu'il attend, qu'il attend, qu'il attend, en fonction de ta situation. Mais Dieu n'est pas injuste pour priver ses enfants des choses dont ils ont besoin. Dieu n'est pas injuste, un père irresponsable, pour nous laisser périr dans les situations où nous vivons. Si nous prenons cette histoire que j'ai voulu lire jusqu'à la fin, nous voyons que la bénédiction était là. Mais il fallait qu'un homme se lève, quatre lépreux qu'ils sortent. Et même encore eux, ils ne savaient pas qu'ils allaient pouvoir rentrer et manger. Peut-être que l'action que je fais va réussir. Peut-être que l'action que je veux faire ne va pas réussir. J'ai peut-être envie de créer une entreprise, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Le contexte économique fait que... Oui! Et c'est le problème. Il était aussi en train de parler du contexte. Il y a des Syriens, peut-être qu'ils vont nous attraper, peut-être qu'ils vont nous laisser vivre. Mais on va y aller. On se met en mouvement. Je fais ma part, je fais ce que j'ai à faire. Si je réussis, gloire à Dieu. Si je ne réussis pas, gloire à Dieu. Mais je vais me mettre en action. Quel que soit le contexte économique, quel que soit ce qu'on dit dans les journaux, quels que soient les problèmes autour, quelle que soit la réalité de la situation. Parce que la réalité de la situation, c'est que les Syriens étaient là. La réalité de la situation, c'est que c'était quatre lépreux, sans force, sans armes, sans rien. Quatre lépreux. Mais tellement désespérés qu'ils se sont dit, quitte à mourir, on va mourir. Mais on va y aller. Et parce que Dieu a vu leur pas de foi, leur action, leur courage, leur volonté, leur détermination, plus ils marchaient, plus ils avançaient, la Bible déclare que Dieu faisait entendre dans le camp des ennemis les bruits de chars et les bruits de chevaux. Alors que c'était quatre lépreux qui marchaient. Plus tu avances dans un projet, Dieu te montre comment tu dois être orienté. Plus tu avances dans un projet, Dieu fait des choses que tu ne vois même pas. Je vais vous raconter ma propre histoire, que vous connaissez déjà à moitié. Je vais vous rajouter quelques brides. Vous savez tous que je travaille quelque part. J'avais dit ici que la situation dans mon bureau était compliquée, mon chef était tendu, ma collègue qui est responsable comme moi aussi était tendue, avec d'autres clients c'était tendu, c'était compliqué. Et je disais au Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Cette entreprise où ça ne va pas vraiment. Je me disais, reste là. Obéissance à Dieu, je suis resté là. Il y a des mois que je travaille là-bas. 8 mois, mettons. Et ça n'allait toujours pas. Avec mon propre responsable, c'était compliqué. Parce que comme avec le client, c'était difficile, donc il était toujours nerveux, mon responsable. Et ma collègue et moi, on subissait les colères du responsable. C'était dur. Au point où mon contrat, puisque je suis consultant, je suis là-bas pour une mission, mon contrat devait s'arrêter en avril. Ils m'ont proposé, non, en mars, ils m'ont proposé de le mettre jusqu'en avril. Je commençais à réfléchir. J'ai dit, ah, est-ce que je vais accepter? Parce que là, la possibilité de partir, que ma mission termine, est-ce que j'accepte encore de mettre un mois? Je réfléchissais. Et puis après, j'ai dit, bon, Seigneur, tu m'as mis là. Donc, je leur ai dit, ok, j'accepte. J'avais prévu de prendre des vacances, j'ai annulé mes vacances, une semaine. Je dis, j'accepte, je continue le contrat. Deux jours plus tard, mon chef arrive. Il me dit, les choses vont changer. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? On a fait une réunion avec le client, avec tout le monde, ce qu'ils appellent chez nous les têtes hautes, donc les directeurs généraux. On va changer, moi je vais partir. Ah, tu vas partir, c'est-à-dire, tu vas quand, pourquoi? Mais non, je vais partir, je quitte le poste, quelqu'un d'autre va me remplacer. OK. Un jour avant, ma collègue avec qui on travaille, avec qui aussi c'était compliqué, arrêt maladie. Ça fait 3 semaines qu'elle n'est pas là. Mon chef me dit, je vais partir, je ne sais pas quand. J'ai dit, OK. Une semaine plus tard, deux jours plus tard, il me dit ça le vendredi. Le lundi, je suis assis au bureau. Il y a un monsieur qui arrive. Il dit, bonjour, c'est ici le bureau de... Oui, c'est ici. Il rentre, bonjour. Je suis telle personne, je remplace votre chef qui était là. Je lui dis, il m'a dit, c'est à 2 jours. Et je pensais qu'il est encore là, il est encore là peut-être pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais les gens le remplacent là. Il m'a dit, oui, je m'en fous de le remplacer. J'ai dit, OK. Il rentre, il s'assoit. Un autre chef arrive de Paris. Il rentre dans le bureau, un grand directeur. Il me dit, bonjour Winfried, c'est toi Winfried, OK, comment tu vas? Merci pour tout le travail que tu fais ici, blablabla. Il me dit, écoute, les choses vont changer. Donc ta collègue qui était là, elle va partir, elle a arrêté maladie, je pense qu'elle peut revenir. Ton chef qui était là, écoute, on l'a remplacé, donc on refait toute l'équipe. Maintenant, tu seras avec lui qui vient d'arriver, vous allez travailler ensemble, et moi, je suis là comme votre référent. J'ai dit, OK. Et c'est à partir de quand? Il dit, non, c'est maintenant. Ton chef va arriver, comme il fait la route, il ne vit pas ici, il vit vers Strasbourg. Il va arriver vers midi. On va faire pendant 2 jours, lundi et mardi, la passation. Et puis, à partir de mercredi, il n'est plus là. À midi, on mange au resto et puis on voit un peu comment on s'organise pour la suite. J'ai dit, OK. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des mois que je me bats, que c'est tendu, que c'est dur. Et le chef qui est arrivé, je ne sais pas qui c'était. Donc, il arrive, il s'installe. Après, il me dit, tu sais, je suis consultant comme toi. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris quelqu'un de leur propre boîte, ils ont pris un consultant. Mais je suis consultant comme toi. Donc, on va travailler moulou-moulou. On va aller tranquille. Tu connais le projet, donc je compte sur toi pour me mettre un peu au parfum. Il me dit, c'est quoi tes heures de travail? Je dois le mettre de travail. Il me dit, tu fais trop d'heures. Il me dit, non, même vendredi, si tu veux, tu pars à midi. Il dit, Je dis, OK. Il me dit, non, tu peux finir même à 17h, il n'y a pas de problème. Je dis, Mais d'habitude, je finis à 18h. Il me dit, non, tu fais trop d'heures. Il me dit, tu peux finir à 17h si tu veux. Il me dit, alors, mercredi, tes enfants, tu peux partir plus tôt. Mercredi, tu restes en télétravail, si tu veux. Comme parfois, mercredi, je suis en télétravail. Il me dit, tu peux même rester, il n'y a pas de problème. Je dis, les choses changent. Et depuis qu'il est là, ça va faire 2 semaines, tranquille. Il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de... Mon chef est allé jusqu'à me dire des mots compliqués. Mais en tant qu'homme de Dieu, j'ai gardé mon calme. C'était tendu. Mais Dieu faisait les choses que je ne voyais pas, que je ne comprenais pas. Mais parce que j'ai gardé la foi, je me suis dit, Seigneur, tu veux que je sois là? Je suis là. J'attends voir comment les choses vont se passer, qu'est-ce que tu vas faire. Mais je suis là. J'avance, je fais mes œuvres, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire, je le fais aussi mieux que je peux le faire. Et voilà que depuis 2 semaines, je suis complètement dans autre chose. Mais complètement. J'ai eu un entretien d'embauche il y a 1 semaine, parce qu'entre-temps, l'autre entreprise m'appelait, et donc je disais, je vais quitter peut-être là-bas. Donc j'avais déjà pris un entretien que je n'ai pas annulé, par respect pour la boîte, donc je suis quand même à l'entretien à discuter. Ils attendent ma réponse pour lundi. Mais je vais leur dire non. Je veux rester là où je suis. Dieu a fait des choses que je n'imaginais pas. Et pourtant, la boîte qui veut me prendre, et pour eux, je suis l'homme de la situation, ils ne sont pas loin de chez moi. Ils sont moins loin que là où je pars. Mais je me rends compte que c'est vraiment là-bas que Dieu me veut. Vous comprenez?
On ne connaît pas ce que Dieu fait. On regarde trop à ce que nous vivons au quotidien. On regarde trop aux difficultés que nous voyons sur place, sur nous. Quand la Bible déclare, on marche par la vue et non par la foi. Et non par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et que si nous passons des situations difficiles, Dieu est au contrôle. Dieu sait pourquoi. Et quand j'ai prêché ici les semaines, les mois derniers, j'ai toujours dit, peut-être que certains s'en souviennent, que Dieu m'a dit, je sais pourquoi je t'amène ici. Et donc malgré tout ce qui se passait, j'ai toujours dit, Seigneur, je veux rester fidèle. C'est dur, c'est même très dur. Les réunions étaient catastrophiques. Le projet n'est plus rentable. Parce qu'on a tellement perdu de l'argent. Mais il faut y aller. Et j'ai gardé cette foi-là en moi en disant, Seigneur, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va changer, peut-être pas, mais je suis là. Et j'ai parlé comme les lépreux. Peut-être que les Syriens vont nous manger, vont nous tuer, peut-être que les Syriens vont nous laisser vivre. Plus ils avançaient, plus les chars et les chevaux se faisaient entendre. Et l'armée des Syriens a pris la fuite. Plus les semaines et les mois dans mon boulot avançaient, plus Dieu travaillait. Et mon chef a pris la fuite. Et ma collègue a pris la fuite. Aujourd'hui, au bureau, je suis seul référent. Mon chef qui vient d'arriver ne connaît pas du tout le projet. Donc, tout ce qu'il fait, il me demande mon avis. Alors qu'avant, on ne me demandait même pas mon avis. Il me disait, voilà ta tâche, tu fais ce que tu as à faire, point. Il y a des réunions, il ne m'invitait pas. Alors que parfois, c'est des sujets que je maîtrisais, sur lesquels je devais dire un mot. Il ne m'invitait pas. Il venait que me faire le rapport. Bon, on a dit ça, ça, ça. Ou parfois même, pas de rapport. Pas en copie des mails. Mais le chef que j'ai aujourd'hui, tout, il me met en copie. Tout, il me dit, tout, il me demande. Il fait des réunions où je ne suis pas convié parce que c'est entre les responsables. Il met le haut-parleur, pendant qu'on est au bureau, en Teams, il met le haut-parleur, il me dit, bon, tu écoutes. Je suis maintenant informé de tout, au centre de tout. Avant de prendre une décision, il me demande mon avis. Vous voyez? Je suis maintenant à l'aise. Je ne stresse plus. Je ne parle plus au boulot avec la boule. Mais je ne savais pas ce que Dieu faisait. Je ne savais pas que dans une semaine, les choses vont complètement changer. En deux jours, vendredi, on me dit, bon, oui, il se peut que lundi, bam, mercredi, mon chef n'est plus là. Ma collègue n'est plus là. Je dis, ben, oui, Dieu fait. Dieu fait. On ne sait pas ce que Dieu fait. Gardons la foi, marchons, avançons, faisons les pas. Tu as un projet, fais-le. Tu as l'école, travaille. Fais ce que tu as à faire. Ne te décourage pas. Dieu est au contrôle. Tu dois aller à l'entretien, vas-y. Tu cherches un stage, bats-toi. Dieu est au contrôle. Si tu n'as pas ce stage-là, peut-être que tu auras un autre. Ne dis pas, ça fait 4 fois, 6 fois, me refuse. Oui, peut-être ce sera la 7e fois, ou la 8e fois, ou la 9e fois. Ça fait 8 mois que je suis là-bas. Il a fallu attendre 8 mois pour que ma situation change. Il n'a pas changé le premier mois, et pourtant j'ai pris depuis 8 mois. Mais ce n'est que maintenant que Dieu a fait. Parce que c'était son temps. Et parce qu'il a vu ma persévérance. Il a vu mon sérieux. Je me suis plaint dans mes prières, mais je suis quand même allé au travail. J'ai pleuré dans mes prières, mais je suis quand même allé au travail. Et j'ai bien fait ma part. Et Dieu a vu. Et Dieu a fait la sienne. Donc vraiment aujourd'hui, je vais vous encourager, on ne sait pas ce que Dieu fait. Mais une chose est sûre, il travaille à notre bien. Il travaille à notre bien. Même pour la santé, quel que soit le sujet, Dieu travaille à notre bien. Alors ne vous laissez pas distraire par ce que vous voyez, ce que vous entendez, par les obstacles, par les difficultés. Dans cette histoire, celui qui n'a pas cru, celui qui a déclaré une parole en disant que même si Dieu ouvrait les fenêtres dans le ciel, c'est impossible que demain, les choses changent. Vous voyez, moi, en deux jours, les choses ont changé. Peut-être que ton jour, c'est demain. Peut-être que ton jour, c'est après-demain. Tu ne sais pas. Tant que tu ne sais pas, fais ce que tu as fait. Et Dieu fera ce qu'il a fait. Amen.